Et je vous propose ce matin de lire dans le livre d'Ésaïe et de lire plus particulièrement le chapitre 4 du livre d'Ésaïe. Et je lis dans la version Summer 2015. Pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en chant joyeux, crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement l'étoile qui t'abrite. Ne les ménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite, sur ta gauche, et ta postérité prendra possession de nations et peuplera les villes devenues solitaires. Ne sois pas effrayée, car tu ne seras plus honteuse, et ne sois pas confuse, car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence, et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Car celui qui t'a fait, c'est ton époux. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël, celui que l'on appelle le Dieu du monde entier. L'Éternel te rappelle, comme un époux rappelle la femme abandonnée à l'esprit accablé, la compagne de la jeunesse qu'il aurait répudiée. C'est ce que déclare ton Dieu. Pour un petit moment, je t'ai abandonné, mais avec beaucoup de tendresse, je vais te rassembler. Dans le déchaînement de mon indignation, je t'ai caché ma face pour un petit instant. Mais dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse pour toi. C'est là ce que déclare ton libérateur éternel. Car il en est pour moi comme au temps de Noé. J'avais juré alors que les eaux du déluge ne submergeraient plus la terre. De même, je fais le serment de ne plus m'irriter à ton encontre et de ne plus t'adresser de reproches. Même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel. Rempli de tendresse pour toi. Ô cité malheureuse, battue par la tempête, privée de réconfort, dans un mortier de jaspe, j'en chasserai des pierres. Je te fondrai sur des saphirs, je sertirai des tours de créneaux en rubis, et je t'entourerai d'un rempart de pierres précieuses. Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel, et la paix de tes fils sera très grande. Tu seras affermi par la justice, à l'abri de toute oppression, et tu n'auras rien à craindre, car la terreur sera bannie et elle ne t'atteindra plus. Si l'on s'attroupe contre toi, je n'y serai pour rien, et ceux qui s'attrouperaient contre toi tomberont devant toi. Moi, j'ai créé le forgeron qui attise les braises et en retire une arme façonnée pour l'usage auquel il la destine. Et j'ai aussi créé le destructeur pour la dévastation. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement, car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel. Et c'est ainsi que je leur fais justice, l'Éternel le déclare. Nous avons ici, dans ce texte, une déclaration d'amour pour son peuple, une déclaration d'amour de l'Éternel pour son peuple. Une belle déclaration d'amour. Incroyable. Ce texte parle tout spécialement à l'épouse. Vous l'avez remarqué, on a entendu l'épouse. Donc, l'Éternel compare son peuple à l'épouse, il se compare bien sûr à l'époux qui déclare son amour à son peuple. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais quand même commencer par le début qui est un petit peu étrange, ce début. le début du chapitre 54 nous parle de la femme répudiée, nous parle de l'enfantement dans la douleur, nous parle des enfants de la délaissée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, plus exactement, on a une explication par l'apôtre Paul lui-même. Dans le Galates, au chapitre 4, à la fin du chapitre 4, l'apôtre Paul nous explique qu'ici, il s'agit bien de la comparaison entre la femme libre et la femme esclave. Au temps d'Abraham, la femme d'Abraham, Sarah, femme libre, et la femme esclave, Agar. Vous savez qu'il y a eu un enfant avec Abraham. Et il compare ces deux épouses, enfin, la vraie épouse et celle qui ne l'est pas, il la compare, cette femme esclave à cette femme libre, à ce peuple esclave et ce peuple libre. Il compare donc, dès le début d'Ésaïe 54, nous avons donc une présentation du peuple libre, de la ville libre, puisqu'on parle aussi de la ville, de la seconde Jérusalem, plus exactement de la Jérusalem céleste, bien entendu, mais du peuple libre de la seconde alliance. Et quand on va plus loin dans le texte, nous pouvons aisément le comparer ce texte avec le Nouveau Testament et sur plusieurs points. On va déjà parcourir cette histoire d'épouse et cette histoire de la manière dont Dieu considère et s'occupe de son peuple. Donc nous avons une déclaration d'amour à l'épouse, hein, ça vous l'avez compris, je vous l'ai dit, et l'épouse, eh bien, il s'en occupe, et il l'a sertie de bijoux. C'est assez merveilleux de voir la manière dont il décrit à la fois cette ville et cette épouse sertie de bijoux. Il la couvre de bijoux. C'est génial pour comme déclaration d'amour. Non seulement il lui dit, mais en plus il fait des choses pour elle. Et on a une dans le Nouveau Testament, au chapitre 21 de l'Apocalypse, nous avons cette description de la manière dont Dieu va habiller et va sertir de bijoux, mais ça prend et des versets, c'est extraordinaire. Apocalypse 21, je vous conseille de le lire, et ça fait vraiment du bien d'entendre dans la manière dont Dieu s'occupe de son peuple. Puis, aussi, dans la suite de ce texte, on a des serments, des promesses que fait l'Éternel. Non seulement il s'en occupe, il l'habille, il en prend soin, mais en plus il fait des promesses. Quelles sont ces promesses? Des promesses de protection, des promesses de joie, des promesses de ne plus s'irriter contre elle. Et il associe et il conforte ses promesses en donnant un exemple. J'ai fait la promesse de ne plus jamais inonder la terre. J'ai fait cette promesse à Noé. Et on peut constater que plus jamais. Alors, on a eu des inondations, certes, et puis des inondations graves, on les a vues dans les actualités en Allemagne, en Belgique. Oui, mais pas toute la terre. Oui, mais toute la terre n'a pas été détruite depuis qu'il a fait cette promesse à Noé. Eh bien, donc, il pourrait nous dire, voilà, c'est comme ça, je vous promets, et puis on devrait le croire. Mais il rajoute un exemple. Regarde, Noé, je lui ai promis, regarde. Donc, aie confiance. Plus jamais je ne m'irriterai contre toi. Nous avons ces mêmes promesses dans ce texte de Romains 8. L'apôtre Paul réitère ses promesses. Il dit, oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ces promesses qui ont été faites par dans Ésaïe, que Ésaïe nous révèle, nous avons les mêmes dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. C'est bien donc, ce texte nous commence à nous prouver bien que pour l'Église, il y a les mêmes promesses. Et puis, il y a la promesse qui est faite tout particulièrement à l'épouse. Et nous avons ce parallèle de l'épouse dans Apocalypse 19. Cette « Réjouissons-nous, exultons d'allégresse, apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. » L'Église est bien comparée également à l'épouse. À l'épouse en devenir, certes, puisqu'on parle de fiancée, les noces à venir, certes, mais il y a bien cette notion d'épouse que nous retrouvons dans ce texte. Éphésiens nous parle de cette épouse aussi. L'apôtre Paul, aux Éphésiens, compare l'Église à l'épouse et il en profite pour parler du comportement que doivent avoir les maris auprès de leurs femmes. « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole. » Comme par le bain nuptial. Alors, je reprends la phrase parce que je l'ai coupée en deux et ça. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Dans le temps, à cette époque-là, la fiancée avant d'aller à l'union passait par ce bain de purification. Alors, on se lave, quoi. Enfin, mais d'une manière toute particulière. Et là, il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà une belle image de l'Église épouse de Christ, comme le texte nous parle du peuple et dont Dieu lui-même décrit son peuple comme son épouse. Ésaïe nous révèle ici donc qu'il y a bien une promesse que Dieu fait. Il fait une promesse de ne plus s'irriter contre elle. Il fait une promesse de s'unir à ce peuple d'une manière toute particulière. Il fait une promesse de prendre soin, mais d'une manière extraordinaire pour ce peuple. Et donc, nous pouvons nous associer à cette promesse puisque l'Église fait bien partie du peuple de Dieu. Et l'apôtre Paul nous le révèle à plusieurs reprises. Le Nouveau Testament nous le révèle à plusieurs reprises. Avançons maintenant un peu plus dans cette promesse que Dieu fait. En effet, Dieu fait des promesses, Dieu s'engage, Dieu nous couvre de biens. Dieu a promis même de nous couvrir, de nous sertir de bijoux. Et il nous demande aussi de participer à cette promesse. Comment nous demande-t-il de participer à cette promesse? Eh bien, on va revenir un petit peu au début. On va revenir à la façon dont le texte nous décrit les deux peuples. Celui qui est comparé à la femme esclave et celui qui est comparé à la femme libre. Et dans Galates, je vais revenir sur cette histoire de Galates. Galates, à la fin de l'épître aux Galates, au verset 30, du chapitre 4, chasse cet esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne doit pas avoir part à l'héritage paternel avec le fils de la femme libre. y a donc là, ici, l'apôtre Paul nous révèle bien qu'il va y avoir une part toute spéciale à ceux qui acceptent cette liberté et qui ont pris part à cette liberté par Jésus-Christ. Et ceux qui n'ont pas pris part à cette liberté par Jésus-Christ sont donc chassés. Ils ne feront pas partie de cette promesse. Et à la fin du chapitre 4, Paul dit « Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais ceux de la femme libre. » Nous sommes réunis ce matin et nous pouvons dire que nous sommes les enfants de la femme libre. Par Jésus-Christ, nous sommes bien les enfants de la femme libre. C'est pourquoi, viens tout de suite après, c'est pourquoi, élargis l'espace de ta tente. Déploie largement l'étoile qui t'abrite. Ne les ménage pas. Allonge tes cordages. Assure tes piquets. Car tu te répandras sur ta droite et ta gauche. Et ta postérité prendra possession de nations et peuplera les villes devenues solitaires. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que le prophète Ésaïe veut nous dire par la, il parle par la, c'est la parole de Dieu hein, qu'il est en train de nous révéler. C'est-à-dire que il est en train de nous expliquer, il est en train d'expliquer à son peuple que ceux qui ont donc accepté, qui vont devenir libres, c'est-à-dire libres du péché, on est bien d'accord, hein, libres du péché, qui vont être descendant de cette femme libre, de se préparer à quoi? De se préparer à une masse de personnes, visiblement, qui vont arriver et qui vont s'ajouter. Et si c'est bien un ajout qui va être fait, c'est bien dans le Nouveau Testament que nous allons le voir, cet ajout. Qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau Testament? Déjà, Jésus, à la fin dans Matthieu, à la fin du dernier chapitre, au chapitre 28, versets 18 à 19, alors Jésus s'approcha d'eux et il leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. » Et puis il parle aussi, enseignez-leur. Il va bien y avoir ici, Ésaïe nous parle aussi de l'enseignement. Tous les enfants, verset 13, tous les enfants seront instruits par l'Éternel et la paix de ses fils sera très grande. L'enseignement que nous fait le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Apprenez-leur à obéir. Donc il y a bien des promesses, mais il y a bien une demande d'obéissance quand même. Et on le voit dans ce texte. Et je vous ai ramené, pour illustrer un petit peu cette histoire de toile de tente, je vous ai ramené une toile très particulière. Nous avons ici ce qu'on appelle un carré suisse. Voilà, c'est une toile carrée qui fait 1,67 m sur 1,67 m. Il y a un an, nous étions dans une église en Suisse et puis le prédicateur a illustré avec cette toile-là. J'ai trouvé ça génial. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin. J'ai trouvé génial cette toile de militaire, puisque c'est une toile qui est donnée à chaque soldat suisse quand il rentre dans le... Alors peut-être qu'il y a des Suisses dans la salle ou qui ont déjà fréquenté des Suisses et qui à chaque fois qu'ils rentrent dans l'armée, hein, il y a une armée suisse. En France, on n'en a plus d'armée obligatoire, mais eux, ils l'ont. Et ils reçoivent cette toile-là, 1,67 m sur 1,67 m. Ils appellent ça le carré suisse. Et il a plusieurs fonctions, ce carré. je reviendrai sur le texte avant. Voyez, on peut, alors je sais pas si on voit bien, oui, on arrive à voir, et là, on, vous voyez, on peut en faire un baluchon, quelque chose pour pouvoir mettre toutes ces affaires. Nous pouvons aussi s'enrouler dedans. Alors c'est vrai que quand on, je vais pas le faire là, hein, mais vous voyez à peu près, donc il y a un homme couché, et puis il s'est complètement enroulé dans cette toile. Il est maintenant protégé au moins de la rosée. C'est assez épais. Et cette toile est, est entourée d'anneaux, d'œillets et puis de boutons pour pouvoir s'accrocher les uns aux autres et pour pouvoir s'assembler. Et il a la possibilité, il y a la possibilité d'en faire une tente, hein, avec un, deux, trois ou quatre. On les assemble et après, en tente simple, on peut s'allonger à plusieurs dessous. Mais il y a la possibilité aussi, vous voyez, de l'assembler encore plus. Là, il y a bien une cinquantaine, oh, même plus, j'ai pas, je les ai pas comptés, mais de toiles comme ça, de carrés assemblés. Et j'aime beaucoup cette image de toile de soldat. Chaque toile représente un soldat. Mais là, maintenant, ils sont unis les uns aux autres pour former un abri pour résister aux intempéries. Cette toile, cette façon d'unir nos carrés les uns aux autres nous permet de, permet d'abriter plusieurs personnes. Et quand on en met debout, là, c'est même sur un, sur cette surface-là, on peut mettre beaucoup, beaucoup de personnes. Et alors là, ils en ont fait encore plus grand. Alors là, vous pouvez, il y en a une centaine, là, à peu près. Alors là, vous pouvez imaginer le nombre de personnes qu'il est possible d'abriter sous cette, alors de ce petit carré-là. Voilà. Là, on arrive à en faire, à faire une assemblée, en assemblant ces toiles qui appartiennent à chaque soldat. On arrive à faire une toile qui peut abriter encore plus, parce que en se mettant debout, on peut abriter encore plus de personnes. Et ce que j'aime comme image aussi dans cette tente, tente toute particulière, c'est que c'est l'union, l'unité de chacun, unis ensemble, ils arrivent à pouvoir accueillir toute personne qui pourrait, qui aurait besoin de venir s'abriter. Et ils ont besoin pour cela que ce soit extrêmement bien tendu. Le texte nous parle de tendre largement l'étoile qui l'abrite. Ne ménage pas tes cordages, c'est-à-dire vas-y, tire, tire dessus. Si c'est pas assez tiré, la toile va s'effondrer, la toile va s'abaisser. On n'arrivera plus à se glisser en dessous. Si c'est pas assez tiré, ça devient, ça peut devenir même une bâche. J'aime cette idée d'être ancré. Assure tes piquets. Assure tes piquets. Qu'est-ce que ça voudrait dire, assure tes piquets? Nous pouvons, il est possible d'imaginer plusieurs choses. Mais moi, ce que j'y vois plus particulièrement, c'est de s'assurer dans la parole de Dieu. Assure-toi de la parole de Dieu pour pouvoir tirer sur tes cordages et pour pouvoir accueillir. Assure tes piquets, Église de Clermont-Ferrand, pour pouvoir accueillir. J'ai tout particulièrement pensé à vous parce que vous avez donc cette partie d'un bâtiment où vous étiez à l'étroit pour arriver dans ce bâtiment où maintenant vous pouvez accueillir encore plus de personnes. Je sais qu'en discutant avec Eric, la volonté c'est de pouvoir accueillir, mais accueillir qui? Accueillir ceux qui seraient, qui viendraient, ceux que le peuple est prêt à accueillir, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore la parole de Dieu. Le texte nous parle de se répandre sur ta droite et sur ta gauche, et ta postérité, prendra possession de nations et peuplera les villes devenues solitaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on parle bien de villes à qui il manque quelque chose. Frères et sœurs, nous sommes chacun, les uns et les autres, placés par Dieu à des endroits spécifiques. Lorsque nous nous réunissons le dimanche matin, nous sommes bien peuple réuni, peuple uni. Nous prions Dieu, nous élevons nos voix et nous sommes l'Église. Mais nous sommes aussi l'Église une fois que nous sortons de cette salle. Mais l'Église dispersée, l'Église qui va être placée par Dieu à des endroits spécifiques. Frères et sœurs, vous êtes dans un quartier, vous êtes dans une maison d'une manière spécifique, voulue par Dieu. Vous êtes dans un travail, vous êtes dans une association caritative ou sportive, placée par Dieu. Placée par Dieu pourquoi ? Mais pour être tout simplement témoin de Jésus-Christ dans votre vie. Être là, placé, c'est pas un hasard, c'est bien voulu par Dieu. Vous représentez l'Église, vous êtes je trouve plus le mot exact, mais en tous les cas, vous êtes témoins de Jésus-Christ. Certes, vous êtes des ambassadeurs, voilà, c'est ça que je cherche. Vous êtes des ambassadeurs de l'Église et témoins de Jésus-Christ, là où vous êtes. Ah oui, mais moi, je sais pas parler. Il n'y a pas une histoire de parler, il y a une histoire d'être. À partir du moment où vous êtes né de nouveau, Christ habite en vous, vous êtes témoin. Et là où vous êtes, et en étant témoin, vous représentez donc cette Église dispersée. En étant témoin, vous montrez une facette de qui est Jésus-Christ. Peut-être juste une facette, mais c'est déjà ça. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, là où vous êtes, dans cette Église dispersée pour la semaine, et puis de fil en aiguille, ces personnes que nous rencontrons au travail ou nos voisins, nous faisons connaissance avec eux, eux font connaissance avec nous. Ils voient bien qu'on est différents. Ça, c'est inévitable. Nous sommes différents parce que nous n'appartenons plus à ce monde, nous appartenons au royaume de Dieu. Et cette différence, à un moment donné, elle questionne. Ces personnes qui se questionnent, venez voir ce que c'est que l'Église. Nous nous rassemblons le dimanche matin, nous nous rassemblons tel autre jour dans la semaine. Venez voir. Et là, on accueille. Et là, nous venons les inviter à s'abriter sous cette toile de tente. Là, à l'Église rassemblée, ils entendent la parole de Dieu. Peut-être nous ne sommes pas tous des évangélistes à savoir parler de Dieu à n'importe qui dans la rue. Ça, c'est un don tout particulier qu'a fait Dieu à certains dans l'Église. Ça, c'est sûr. Mais par contre, nous sommes tous témoins de Jésus-Christ. Par contre, nous avons tous le devoir d'être témoins. Alors, je dis on a le devoir parce que il faut bien en prendre conscience. Mais inconsciemment, de toute façon, vous êtes témoin. Inconsciemment, vous vous comportez différemment. C'est quelque chose où vous n'y pouvez pas grand-chose. À partir du moment où Dieu habite en vous, vous êtes différent. Et cette différence-là, il faut vraiment que vous la marquiez comme quelque chose d'important. Parce que cette différence-là, il faut vraiment y tenir. C'est cette différence-là qui va interroger les gens. C'est cette différence-là qui va les interpeller et les faire venir. Parce qu'ils vont vouloir voir exactement ce qu'est l'Église rassemblée. C'est une évidence. Et ça, c'est notre rôle. Je voudrais revenir juste sur ce que nous dit le livre des Actes des Apôtres. Voilà. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Furent ajoutées. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Et puis un peu plus loin, au verset 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. Il faut se libérer de cette peur de dire oui moi je sais pas parler de Dieu. C'est le Seigneur qui ajoute. Votre rôle, il est d'être témoin. de représenter Christ, de dire que dans une conversation, ben moi je pense pas comme vous parce que ceci, parce que cela, de pas avoir peur. Mais nous ne sommes plus esclaves, donc nous ne sommes plus esclaves de la peur. Donc à partir du moment où nous n'avons plus peur, nous n'avons plus de raison d'avoir peur, puisque nous sommes protégés, je viens de vous le prouver, hein, on n'a plus rien à craindre. Dans les conversations, n'ayez pas peur de dire où est-ce que vous en êtes, comment vous croyez telle et telle chose, quelle idée vous défendez de la vie et de la vie avec Christ. Voilà, ça c'est notre rôle, frères et sœurs. Et pour finir et pour conclure, je vais vous lire un passage dans l'épître de Pierre. Le premier épître de Pierre. Pierre s'adresse à une église. Au chapitre 2 et à partir du verset 5. Laissez-vous bâtir. Laissez-vous bâtir. Vous aussi, comme des pierres vivantes, pour construire un temple spirituel. Vous y formerez une communauté de prêtres appartenant à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je place en Sion une pierre d'angle. Je l'ai choisie, elle est précieuse. Et celui qui met sa foi en elle ne sera jamais déçu. » Cette pierre est d'une grande valeur pour vous, les croyants. Mais pour les incroyants, comme le dit l'Écriture, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. Et ailleurs, il dit encore, c'est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Ces personnes trébuchent parce qu'elles refusent d'obéir à la parole de Dieu. C'est ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes la lignée choisie, la communauté royale. La communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qui l'a fait sien. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple. Maintenant, vous êtes peuple de Dieu. Autrefois, vous étiez privé de bonté. Maintenant, la bonté de Dieu vous a été accordée. Père éternel, je voudrais te dire merci. Merci pour ces promesses merveilleuses. Merci pour la paix et la joie que tu mets dans notre cœur, nous, ce matin, parce que nous sommes rassemblés pour te prier. Nous avons prié les uns pour les autres. Nous avons prié pour ceux qui souffrent aussi. Mais peu importe l'état dans lequel nous sommes, Seigneur, nous avons la conviction que tu es avec nous, que tu nous protèges, que tu nous accompagnes. Et chaque chose que nous vivons avec toi, Seigneur, chaque chose nous rend témoin de ton amour. Que nous souffrions, que nous soyons dans la joie. Comme l'a dit mon frère Fabrice tout à l'heure, la souffrance peut être là, mais nous savons que tu es là aussi, que tu nous portes. Et dans ces souffrances, Seigneur, nous sommes témoins également, témoins de toi. Père, donne-nous, enlève de nous la peur, toute peur qui pourrait venir, qui pourrait survenir. Ne nous rends pas esclaves de la peur. Et donne-nous de pouvoir témoigner de ton amour librement. Là où nous nous trouvons, là où tu nous as placés, Seigneur, dans notre travail, dans notre quartier, dans notre association ou autre. Nous sommes conscients, Seigneur, que tu nous as placés à des endroits très précis pour rayonner. Bénis l'église de Clermont-Ferrand, Père. Bénis-la parce qu'elle a choisi d'affirmer ses cordages dans ta parole. Elle a choisi de tendre sa toile pour pouvoir accueillir. Donne-lui de pouvoir accueillir tout ce que tu donneras, tout ce que tu apporteras. ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.